France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien de la matinale le secrétaire général de la CGT. Dialoguez avec lui dans une dizaine de minutes. Vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Philippe Martinez, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Le 11e acte de la mobilisation des Gilets jaunes a donc eu lieu ce samedi. Depuis la rentrée de janvier, selon les samedis, on tourne autour de 70-80 000 Gilets jaunes sur toute la France, descendu dans la rue. Comment analysez-vous cette mobilisation et surtout, selon vous, à quoi sert-elle désormais, à part dire Macron démission? Elle sert à se compter dans les rues?
Je crois que les messages, c'est pas uniquement Macron démission, c'est des messages qui sont là depuis un petit moment.
Vous entendez quoi alors?
J'entends hausse du SMIC, hausse des salaires, hausse des pensions, des minima sociaux, j'entends justice fiscale et retour de l'impôt sur la fortune, j'entends plus de services publics. C'est beaucoup de questions sociales qui sont au cœur de ce mouvement et des revendications que nous portons nous aussi depuis un petit moment. Donc c'est tout l'intérêt de ce mouvement, c'est ça. C'est une volonté du peuple, en tout cas d'une partie la plus visible, parce que le soutien de ces gilets jaunes, il est effectif, on le voit dans les sondages. C'est plus de justice face à un pouvoir qui fait depuis le début des cadeaux aux riches et qui dénigre souvent ceux qui ont le moins d'argent.
À Marseille, samedi, il y avait 4000 gilets jaunes dans les rues et la CGT les a rejoints. Jusque-là, je me souviens du Philippe Martinez qui était à ce micro il y a 2 mois et qui disait « on ne manifestera pas aux côtés du Front National, c'est non ». Jusque-là, vous étiez sceptique et là, vous êtes aux côtés des gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez changé?
C'est surtout parce que vous ne m'avez pas écouté depuis 2 mois.
Ah si, si. Vous savez bien.
Vous mal écouté alors.
Ah, peut-être.
Quand est-ce que vous avez changé? Mettez une date.
Dès que justement ces revendications sociales sont apparues sur les ronds-points, ce n'était pas le cas au début. Au début, ce mouvement, il est parti sur Internet contre l'augmentation de la taxe sur les produits pétroliers. Vous vous en rappelez. D'ailleurs, celle qui a initié ce mouvement, vous en parlez depuis ce matin, premièrement à considérer que les mesures annoncées par le gouvernement étaient bonnes, vous savez, prime d'activité, etc., etc., et puis elle lance son parti politique.
Les émergents.
Ce qui a évolué, c'est les slogans et les revendications sociales, ce qui n'était pas le cas au début. Et sur de nombreux ronds-points, j'y passe, on voit des revendications sociales. Et depuis plus d'un mois et demi, nous avons dit partout c'est possible, la CGT peut se joindre à côté, avec, parce que c'est parfois...
Même s'il y a des militants de l'ultra-droite
et du Front National, laissez-moi terminer. Ouais. Partout où c'est possible. Par contre, nous ne manifesterons pas, jamais, et je le redis aujourd'hui, avec ceux qui ont des slogans racistes, xénophobes, sexistes. C'est une minorité, mais ça existe aussi. Voilà.
Donc vous allez les trier pour voir où est-ce que vous manifestez ou pas?
Ils sont assez visibles et on les entend assez bien. Je pense que vous les entendez aussi.
Éric Drouet, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, suite à la blessure d'un de ses proches, place de la Bastille, samedi à Paris, Jérôme Rodriguez, a appelé, je le cite, c'était un communiqué via Facebook, à un soulèvement sans précédent par tous les moyens utiles et nécessaires. Est-ce que la CGT est à l'aise avec un appel de ce genre?
Nous, on est à l'aise avec nos appels. Et vous savez que nous avons fait un appel pour le 5 février à une grève partout où c'est possible de 24 heures.
Rejoint par un certain nombre de gilets jaunes.
C'est la CGT qui a lancé ça. Voilà. Après, que certains commentent des gilets jaunes, mais j'ai entendu aussi des hommes politiques. Voilà. Nous, l'objectif, c'est ce qu'on dit aussi aux gilets jaunes. Le samedi, c'est bien d'occuper la rue, les ronds-points, mais l'argent, il est notamment dans les très grandes entreprises. Et vous avez fait écho des dividendes versés aux actionnaires. Le fait que 26 ou 27 personnes dans le monde détiennent autant que 3,5 milliards de personnes. Ces inégalités, elles se font à l'entreprise. Et c'est là aussi qu'il faut agir. Donc nous, notre mot d'ordre, il est clair, agir le maximum dans les entreprises. Là où c'est possible, une grève de 24 heures, et puis nous serons présents dès aujourd'hui, dès demain, puisque nous avons lancé des cahiers d'expression populaire pour que les citoyens, les salariés puissent mettre noir sur blanc leurs revendications. Il y a besoin d'échanger, d'aller au contact, d'écouter.
Vous dites aux Gilets jaunes, il n'y a pas que le samedi. Le mouvement social, il doit durer et ça recommence à lundi.
Il faut aller... Non, ça, je crois que le 5, c'est un mardi. Mais
en semaine, c'est ça ce que je veux dire.
Oui, parce que les richesses, elles se créent dans l'entreprise. Alors, je sais bien que le président de la République est omniprésent. Il veut s'occuper de tout, on le voit partout, etc. Mais les richesses, elles se produisent, elles se font, elles se créent dans les entreprises. Vous savez que l'année dernière, les 40 plus grandes entreprises françaises ont versé 57,4 milliards d'euros à leurs actionnaires. C'est plus de 60% des bénéfices qui vont directement dans les poches des actionnaires. Cet argent-là, si on le partageait un peu mieux, ça pourrait aller au SMIC, ça pourrait aller à tous les salaires, mais y compris si ces entreprises-là payaient des cotisations sociales qui ne sont pas des charges, bah ça serait bon pour la sécurité sociale, donc pour la santé, pour les retraites, pour les minima sociaux, pour le chômage. Vous voyez, c'est bien au cœur des entreprises, notamment les plus grandes, qui a besoin d'agir.
La CFDT n'y participera pas à cette journée de grève. Laurent Berger a expliqué, d'abord, je n'en connais pas le mot d'ordre, je ne sais pas pourquoi il demande la grève mardi. Et deuxièmement, la CGT l'a décidé de manière unilatérale. Vous lui répondez quoi ?
Je lui réponds que je pense qu'il a perdu la mémoire. Parce que nous nous sommes vus à plusieurs reprises, entre Noël et Jour de l'An, et dès la rentrée, et nous avons travaillé ensemble la construction de cette journée. Y compris, nous avions un texte commun, avec la date n'était pas fixée, mais on savait que c'était début février. Et curieusement, au dernier moment, il a retiré, j'allais dire, sa signature. Donc, je ne sais pas pourquoi.
Il vous a pas dit pourquoi il retirait la signature.
Il a pas dit pourquoi. Mais en tout cas, il a été associé. Nous avons travaillé ensemble tous les deux, enfin tous les trois, puisqu'il y avait aussi le secrétaire général de Force Ouvrière. Donc je ne comprends pas. Voilà, quand on veut être complètement transparent et honnête, on dit on a travaillé ensemble jusqu'au dernier moment. Puis pour des raisons que là je ne peux pas expliquer, eh bien la CFDT ou Laurent Berger a décidé de ne pas se joindre au mouvement. Donc il n'y a pas eu de travail en solo de la CGT.
Êtes-vous favorable à l'inverse à la proposition que poussent Laurent Berger et la CFDT d'un Grenelle du pouvoir de vivre, une grande conférence qui serait à la fois environnementale et sociale et permettrait de trouver une issue, dialoguer à ce mouvement des Gilets jaunes?
Il y a eu beaucoup de tentatives ou d'initiatives de ce genre, je pense sous le président Hollande par exemple. Je pense qu'il faut serrer quelques sujet précis, pas la peine de faire une grande conférence où on parlerait de tout et de pas grand chose. Donc il faut serrer les problèmes.
Le pouvoir de vivre, c'est trop large.
Il faut parler d'urgence sociale. Ça touche les trois points que je vous ai dit. Salaire, en tout cas autour des salaires et des revenus, justice fiscale et services publics. Et puis travailler les questions environnementales. Mais le message qu'on entend nous, c'est que on ne pourra pas parler des questions environnementales qui sont hyper importantes si on ne règle pas le quotidien. Je le dis souvent, comment on veut convaincre des citoyens de manger bio quand ils n'ont rien à manger? Comment on peut demander à des citoyens de faire des économies d'énergie quand ils n'ont pas d'énergie, qu'ils sont en précarité énergétique? Donc ce message, il est brouillé. Il faut traiter les deux questions, peut-être pas au même moment et au même endroit, mais en tout cas, ces questions-là méritent d'être sur la table. Le pouvoir de vivre, je ne vois pas trop ce que ça veut dire.
Sur la justice fiscale, c'était une proposition notamment défendue par Laurent Berger, mais pas que. Et là, on voit que le gouvernement le reprend. L'idée de créer une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu, est-ce que vous y êtes favorable?
Bien sûr, c'est une idée de la CGT. Plusieurs tranches même de revenus. Mais il faut aussi revenir sur l'impôt sur la fortune, c'est essentiel. Et puis, puisqu'on parle de services publics...
Quand Emmanuel Macron, répondez-moi sur l'ISF, quand Emmanuel Macron répond aux Gilets jaunes, ou quand il s'est exprimé la semaine dernière en disant ça ne changera pas le niveau de vie d'un Gilet jaune de revenir sur l'ISF.
C'est sa théorie du ruissellement. Vous savez, ceux qui ont beaucoup vont laisser ruisseler leur argent pour toucher les pauvres.
Bah ça, là, c'est l'antithéorie du ruissellement, puisqu'il dit non, ça ne changera rien.
Ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus. Donc c'est une question de justice. Sur les hauts revenus, c'est une question de justice. Et c'est ce que réclament les gilets jaunes. Mais je voudrais revenir sur une mesure aussi, puisqu'on parle de service public. Le gouvernement veut supprimer des emplois dans la fonction publique, et notamment au ministère des Finances. Moi, je pense qu'il faut embaucher, parce que l'évasion fiscale, qu'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale, il est temps d'y mettre fin. Ben ça, pour ça, il faut des fonctionnaires indépendants qui servent le pays et qui font la chasse aux fraudeurs.
On va passer au standard de France Inter où il y a déjà de nombreuses questions. On en a encore à vous poser, Philippe Martinez avec Léa Salamé. J'accueille et je salue Michel. Bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Michel.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Moi aussi, je suis en colère, mais je suis en colère contre une partie des Gilets jaunes et maintenant contre vous, représentants de la CGT, parce que vous appelez à une grève qui est purement politique, qui n'a rien de syndical. Le mouvement des Gilets jaunes vous échappe. Le grand débat intéresse une partie importante de la population qui a envie de débattre. Vous n'existez plus. Vous voulez reprendre la main en mettant la France à genoux. Tout le monde y perdra. Votre slogan, maintenant, c'est vraiment « tous perdants » et... c'est tout. Voilà,
merci.
C'est une colère réelle.
Une colère réelle, une colère froide qu'on entend. Merci Michel. Philippe Martinez vous répond.
Ben oui, il y a certaines personnes comme Michel qui n'aiment pas la CGT. Je voulais que j'y fasse. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on va continuer à avoir ces inégalités dans ce pays, le nombre de chômeurs qui existent, des travailleurs pauvres. Vous vous rendez compte de cette formule, c'est-à-dire des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à gagner leur vie. Les SDF, vous avez évoqué ce matin, je crois, cet excellent film Les Invisibles. Voilà, ça c'est la réalité de ce pays. Eh bien, soit on continue comme ça, soit on essaye d'avoir un peu plus de justice sociale, parce que dans ce pays, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Malheureusement, il est trop concentré dans les mêmes poches.
Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation hier à Paris des foulards rouges pour la, je cite, « défense de la démocratie et des institutions » Il y avait un peu plus de 10 000 personnes dans les rues. Ils incarnent qui? Ils représentent qui, selon vous?
Je ne sais pas, voilà, ça fait partie de la démocratie. Il y a des gilets jaunes, il y a des foulards rouges. Je vous signale par exemple que samedi prochain, et nous serons à leur côté, il y aura une manif des gilets roses. Vous savez ce que c'est, les gilets roses? Ce sont des, près de 7 à 8 000
assistantes maternelles
qui sont préoccupées, et plus que ça, sur le changement des allocations chômage, puisqu'elles font partie, selon M. Macron, de privilégiés. Eh bien, elles se sont mobilisées sous l'appellation gilets roses, et elles ont appelé la CGT et Force ouvrière, et il y aura plus de 20 rassemblements samedi prochain dans le pays. Nous serons à leur côté. Vous voyez que il y a des couleurs de gilets différentes et que la CGT, elle est présente.
Denis nous appelle de Beauvais. Bienvenue, Denis.
Oui, bonjour à tous. Voilà, j'aimerais poser la question suivante à Philippe Martinez. Quand est-ce qu'il pense organiser un grand Grenelle social comparable à ce qu'avait fait son grand prédécesseur, Georges Séguy, qui, lui, ne paierait pas sur les plateaux de télévision ainsi que à la radio, et qui avait, lors de ce Grenelle, quand même déterminé des grandes avancées, telles 36% d'augmentation du SMIC, ce n'était pas rien. Mmh. Et je ne parle pas des autres avancées, droit syndical au sein des entreprises. Donc je demande à M. Martinez de cesser d'élaborer des théories cas par cas. Il faut qu'il fédère avec les autres fédérations, afin de demander au gouvernement d'organiser ce grand rendez-vous social qui permettrait de discuter sur le SMIC réellement, parce que le SMIC, l'augmentation du SMIC, franchement, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin, c'est-à-dire on augmente la prime d'activité qui est une prime, et on sait bien que c'est révisable. Donc, M. Martinez, jouez vraiment votre rôle de syndicat.
Bien compris.
Les gilets jaunes ont montré la voie.
Merci.
Voilà, je vous remercie.
Merci à vous, Denis. Philippe Martinez vous répond.
Oui, je vois à quoi fait référence Denis. C'était mai 68, et c'est pas Georges Séguy qui a organisé le Grenelle, c'est le gouvernement qui a été contraint, parce qu'il y avait des millions et des millions de travailleurs et de travailleuses en grève. C'est ce qu'on essaye de construire. Pour l'instant, c'est plus compliqué qu'en 68, parce que le monde du travail a changé, mais c'est ce qu'on essaie de construire. Et j'espère que Denis, le 5 février, sera avec ses camarades de travail en grève, justement pour construire cette riposte nécessaire et forcer le gouvernement à organiser un Grenelle du social où on pourra aborder les questions que j'ai évoquées précédemment.
On a une question de Daniel sur l'application France Inter et qui concerne la réforme possible des retraites. Daniel vous dit la chose suivante. Si j'ai 61 ans, que je suis en pleine forme et heureuse de mon travail, pourquoi m'empêcher de continuer encore à travailler 2 ou 3 ans pour avoir une meilleure retraite ?
Personne ne l'empêchera de travailler. Par contre, pourquoi obliger quelqu'un qui a 60 ans, qui a travaillé toute sa vie, qui est fatigué, qui a envie de faire autre chose, de continuer à travailler, parce que s'il ne continue pas à travailler, il ne pourra pas vivre de sa pension. Vous voyez, faut prendre le problème. Personne n'oblige personne à arrêter de travailler à un âge. C'est pas à un âge à 60, 62 ans, voire 65 ans. Par contre, on veut contraindre la majorité à travailler plus longtemps, sous peine de ne pas pouvoir vivre de sa pension. C'est ce que réclament les retraités. Ils seront en manifestation, eux, jeudi prochain. Et c'est la 5e fois, je pense, qu'ils ont contribué avec les Gilets jaunes au recul du gouvernement. C'est ce qu'ils réclament pour pouvoir vivre dignement avec leur retraite après avoir travaillé toute leur vie.
Une question sur l'usine de Ford de Blanquefort. Journée cruciale aujourd'hui pour les salariés. Il y a 870 postes en jeu. Ford veut fermer cette usine, on le sait, en dépit du scénario de reprise. Bruno Le Maire a parlé de trahison. Est-ce que l'État doit racheter l'usine pour la revendre après aux repreneurs ?
Oui, ça fait 3 semaines que j'ai demandé officiellement au gouvernement, non pas de la racheter, de la réquisitionner. Pourquoi la racheter ? Ford a bénéficié d'aides publiques colossales. L'usine, elle est déjà payée, je pense, 2 ou 3 fois. Donc, il faut la réquisitionner. C'est absolument scandaleux que dans ce pays, on donne des aides publiques. Alors, l'État, mais aussi les régions. Et la région a donné beaucoup aussi à Ford. Et puis, que le jour où ce grand groupe décide de fermer cette entreprise en laissant sur le carreau plusieurs centaines de salariés, soit on fait mine d'être outré sans rien faire, soit on dit ben on va vous la racheter. L'usine elle est payée depuis des années, donc on la prend et Ford va mettre ses billes ailleurs et il y a un repreneur en plus. Et je suis sûr que la CGT a déjà discuté. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. C'est prolongé. Et durcir la loi Florange qui avait
en
été...
En abaissant le seuil à partir duquel elle peut se déclencher.
Évidemment, parce que l'usine Ford, il y a quelques années, je la connais bien, elle avait plus de 1000 salariés. Et petit à petit, on l'a baissé en dessous du seuil des 1000. Et maintenant, la loi Florange ne s'applique pas. Mais il faut durcir la loi Florange.
On est en ligne maintenant avec Dominique. Bienvenue Dominique sur Inter.
Bonjour. Monsieur. Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
J'avais une question à Monsieur Philippe Martinez puisque je l'ai entendu dire tout à l'heure que Emmanuel Macron était omniprésent, qu'on n'entendait plus que lui. Or, il n'y a pas si longtemps encore, on entendait dire aussi beaucoup que Emmanuel Macron était absent, qu'il était cloîtré dans l'Élysée. À croire qu'il se planquait, enfin, on n'entendait plus le président. Maintenant, on l'entend, on lui reproche. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il suggère, M. Philippe Martinez, à Emmanuel Macron de faire, puisqu'on a l'impression que, quoi qu'il fasse, de toute manière, ce sera des tonnes de critiques et des procès d'intention. Donc, ça devient un peu compliqué et incompréhensible.
Merci, voilà. Dominique. Philippe Martinez vous répond.
Oui, il y a sûrement eu des commentateurs qui ont dit qu'il était caché. Moi, je constate que depuis son élection, mais même bien avant, parce que nous l'avons connu ministre de l'économie, il est omniprésent dans le sens où il veut gérer toutes les réformes, en tout cas ce qu'il appelle des réformes, dans ce pays. Et ce qu'en tout cas la CGT lui reproche, c'est de vivre dans un monde qui n'est pas celui de la majorité des citoyens de ce pays. Moi, je ne pense pas que, quand il dit « il suffit de traverser la rue pour trouver du travail », ça soit une bêtise ou en tout cas une erreur de langage. C'est son vécu à lui. Oui, il a traversé la rue de la commission Attali sous Sarkozy pour aller à la banque Rothschild pour trouver du boulot. C'est sa vie à lui. Mais c'est pas la vie de la majorité des citoyens. Et donc, il est omniprésent avec une vision du monde qui correspond à son vécu à lui, mais qui ne correspond pas à...
Il n'a pas changé, vous trouvez ? Non, je ne sais pas, je pose la question.
Non, je ne crois pas qu'il ait changé, même si il passe 7 heures dans une salle, manche de chemise retroussée, il n'a pas changé. D'ailleurs, il dit « je ne veux pas changer, j'ai été élu », on ne va pas revenir sur les conditions de son élection, mais j'ai été élu pour faire ça, comme si ce qui se passait dans le pays n'existait pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il vit dans sa bulle à lui. entouré d'ailleurs de quelques collaborateurs qui vivent dans la même bulle, et que quand on lui parle du SMIC, il ne sait pas ce que c'est. J'avais entendu Jean-Louis Trintignant sur cette antenne dire « Monsieur Macron est certainement un excellent président, mais il n'a jamais été pauvre ». J'ai trouvé cette formule excellente. Et venant de Jean-Louis Trintignant, je pense que c'était pas mal de le dire.
Gérard est en ligne au Standard d'Inter. Bonjour et bienvenue Gérard.
Bonjour.
On vous écoute.
Ma question est à M. Martinez, pourquoi ne pas organiser aujourd'hui une grève générale de la SNCF avec constitution d'une caisse de grève dans laquelle grève qui serait menée par les 7000 cheminots qui peuvent bloquer intégralement le trafic, dans lequel les 120 000 autres cheminots et les retraités verseraient à la caisse de grève de façon à pouvoir faire une pression efficace qui serait locomotive d'un mouvement social qui regrouperait les infirmières des EHPAD, qui regrouperait les plus motivés des gilets jaunes, de façon à obtenir un rétablissement de l'ISF, l'augmentation des minima sociaux, des embauches dans les services publics, l'arrêt de la baisse des retraites, de façon à prendre aux riches et aller dans le même ordre d'idée que la réquisition de l'usine de Blanquefort dont vous parlez, une grève générale aujourd'hui pour imposer un Grenelle de l'emploi, un Grenelle de la reprise des services publics.
Merci Gérard pour cette question et le plan de route que vous livrez à Philippe Martinez, c'est celui d'une grève générale et de la convergence des luttes.
Une grève générale des cheminots, ils ont donné déjà et bien donné. Je ne crois pas à la grève par procuration. c'est le maximum de salariés qui doivent se mettre en mouvement. On peut pas regarder telle ou telle profession se mettre en grève, même avec les moyens, entre guillemets, de pression qu'ils possèdent, et puis leur dire « Allez-y les gars, continuez, on met de l'argent à une caisse de grève ». Il faut que chacun, dans son entreprise, dans son quartier, parce que je pense aux retraités, aux privés d'emploi, on agisse ensemble. C'est ce que nous voulons essayer de faire le 5 février.
La négociation sur l'assurance chômage est au point mort. Le patronat est très réticent, vous le savez, au système de bonus-malus pour les entreprises qui ont recours au CDD que veut imposer le gouvernement. Qu'est-ce que vous dites au MEDEF ce matin ? Faut pas quitter. Non, parce qu'il menace de quitter la table.
J'allais vous dire, on leur a tout dit. Voilà, ils refusent d'admettre la réalité. La précarité, c'est une réalité et c'est pas de circonstance. Moi, je connais dans mon entreprise, par exemple chez Renault, il y a 10 000 intérimaires en permanence. 10 000, c'est énorme. Donc il faut des sanctions contre les grandes entreprises, parce que je parle des grandes entreprises encore, qui abusent de la précarité. Là aussi, le cadre de cette négociation a été contraint par le gouvernement. C'est fait 4 milliards d'économies sur le dos des chômeurs. Une nouvelle fois, on culpabilise les plus faibles. Il faut, là aussi, je n'entends pas le gouvernement dire « maintenant ça suffit ». Il faut imposer le bonus-malus. Et nous, du bonus, ils en ont beaucoup. Donc si on pouvait se contenter du malus, ça irait mieux. Voilà. Mais on leur a tout dit, hein. Vous savez, je ne sais pas ce qu'on peut leur dire de plus.
Dernière question très rapide, Philippe Martinez. Est-ce que vous serez candidat à votre propre succession à la tête de la CGT ?
Écoutez, on en parle mercredi à la CGT.
Vous n'avez pas pris votre décision.
On en parle mercredi. Vous comprenez
vous
que
avez envie.
Vous comprenez que la discussion va se faire avec mes petits camarades et puis on verra après si on en parle avec vous.
Vous avez une forte envie ou pas de le faire?
Donnez-nous une référence à quoi?
Donnez-nous une couleur au moins.
J'y ai pas pensé ce matin en brasant, si c'est ça votre question.
On en reste là. Merci Philippe Martinez d'avoir été au micro d'Inter ce matin.